On est en ligne.
Coucou.
Boris aux manettes.
On est sur les ondes. Mais on n'a pas entendu le jingle.
Avec Boris, c'est sur Elisco.
Ah oui. Donc, Boris.
On n'a pas entendu le jingle.
Pluriel gay. Une émission présentée par Gérald.
Et Laurence.
Et Laurence.
Voilà, c'est elle. Elle est à côté de moi. Boris aux manettes.
Je suis là. Il est mignon, ce Boris, avec ce petit sweatshirt bleu à capuche.
Ça va très bien, Autain.
Oui.
Et puis, accompagné de son mentor, Bernardo.
Son mentor. Ouais.
Voilà. Alors, donc, l'émission d'aujourd'hui, le 4 novembre 2015.
Oui.
Après Jésus-Christ. Et on peut se demander parfois si on est bien après Jésus-Christ, vu les événements auxquels nous assistons parfois dans notre bonne ville de Lyon. Nous allons parler un peu plus tard.
Certes.
Mais pour l'instant, pour commencer l'émission, on va commencer une fois n'est pas coutume, quoique ça nous arrive occasionnellement, par une chanson.
Oui.
Par une musique.
Laquelle donc ?
Alors, la semaine dernière, tu te souviens, ma petite Lolo, on avait fait une thématique spéciale comédie musicale gay.
Excellente émission.
Voilà, excellente émission, je ne te le fais pas dire. Et je n'avais pas, on n'avait pas pu passer tous les morceaux, il y avait beaucoup de morceaux, et puis l'émission dure seulement une heure. Du coup, j'ai pensé qu'on pouvait, de temps en temps, réassaisonner nos émissions d'un peu de comédie musicale gay.
Excellente idée.
Et aujourd'hui, ça sera, on écoutera, si on a le temps, trois morceaux. On ne va pas les écouter à la suite, on va les écouter dans le déroulé de l'émission. Trois morceaux issus d'une comédie musicale française, ma chère, s'appelle King Size. Alors, je ne sais pas si on en a entendu parler de King Size. Alors, King Size, c'est une comédie musicale
française.
Oui, en fait, oui, qui n'est sortie qu'en DVD.
Ah,
DVD.
Mais je n'ai pas vu.
C'est français, effectivement, avec des gens qu'on connaît, puisque d'abord, le scénario, c'est les frères Botti. Ensuite, dans la comédie musicale, les acteurs, bah, y a par exemple Sébastien Rock, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Cri-Cri d'amour, ça dit quelque chose, voilà, dans Hélène et les garçons.
Cri-Cri d'amour, le batteur du groupe.
Ah, je vois que tu suivais.
Ah bah oui, Hélène et les garçons, je regardais, bien évidemment.
Bon, tu regardais pour
j'étais,
Hélène.
J'étais, ah bah non, surtout pas. Je regardais, c'est marrant parce que je regardais à la fois pour Étienne et pour Cathy.
D'accord.
Déjà à l'époque.
Ouais.
Et je préférais Cathy, je crois, dans le
fond. Ouais, il y avait donc, ça t'a mis la puce à l'oreille peut-être.
Oui, voilà.
Et en tout cas, il y avait aussi Eric Guéo. Alors, je vais y arriver. Eric Guéo, tu vois pas qui c'est Eric Guéo? Pink TV, c'est quelqu'un qui était sur Pink TV, qui faisait des petits intermèdes ludiques sur Pink TV, des petits sketchs,
d'accord,
des petites chroniques. Voilà. Eric Guéo, et puis également Laurent Artufel, qui est un peu plus connu, puisqu'il il a continué d'animer d'autres émissions.
Oui.
Il était aussi sur Pink TV, et il est dans King Size, avec Eric Guéo, Sébastien Rock. Et puis il y avait des guests comme Marie Myriam, quand même.
Ah, pas mal.
Isa Ferrer.
Oh.
Voilà.
Je n'ai rien dit.
Et l'histoire, en fait, je vais te faire le pitch.
Et donc, c'est une comédie musicale.
Oui, c'est une comédie musicale.
Mais c'est-à-dire façon parapluie de Cherbourg ou façon demoiselle? Ça chante tout le temps?
Non.
Non.
Non, ça ne chante pas tout le temps. Il y a aussi des morceaux, des parties parlées. Et donc, en l'occurrence, dans cette comédie musicale, King Size. Alors, le nom King Size, ça évoque là un grand lit.
Mmh.
En fait, c'est l'histoire d'un couple d'hommes, de deux garçons, qui un jour font la connaissance d'un troisième. La ronde s'appelle Gabriel. Et les deux garçons s'appellent Vincent et Nicolas. Le troisième, la ronde, c'est Gabriel. Et ils sont, et malheureusement, enfin malheureusement, si on peut dire ça comme ça, ils tombent amoureux de lui. Tous les deux, en même
tous
temps.
Les deux.
Tchac. Et donc, évidemment, ils doivent affronter les, comment dire, la pensée, tu vois, courante de tout le monde qui considère qu'un couple, c'est d'abord un duo. Mmh. Certes, bon, deux garçons, deux filles, pourquoi pas, mais alors là, en plus, un trio, ça devient un peu compliqué. Et du coup, ils doivent affronter les préjugés des autres parce qu'ils ont décidé de former donc un trio, un couple, un troupe.
Un troupe.
Voilà. C'est pour ça que King Size... King Size, l'idée du lit, grande taille, c'est pour pouvoir tenir à trois dans le lit.
Ah.
Tu comprends? Voilà. Donc, on va donc écouter trois chansons de cette merveilleuse comédie musicale, King Size. La première chanson s'intitule « Elle est courte », une chanson qui dure un peu plus d'une minute. Ça s'appelle justement « Toujours la même chanson ».
D'accord.
C'est
qu'on
toujours.
Soit homo, qu'on soit hétéro, métrosexuel ou bien bisexuel. Venant de Suisse, venant du Congo, vivant aux Indes, en Israël, on a le sexe dans la peau.
Latitude sud, latitude nord, l'homme est fait pour le corps. Latitude ouest, latitude est, on baise à Londres, on baise à Brest, hop.
folle. Toujours la même chanson. Un garçon invite un garçon. On commence par dire non. Et enfin la même conclusion. Tout se termine en émulsion. Toujours la même chanson. Toujours la même chanson. Toujours la même chanson. Un garçon invite un garçon. On commence par dire non. Et enfin la même conclusion. Tout se termine en émulsion. Toujours la même chanson. Toujours la même chanson. Un garçon invite un garçon. On commence par dire non.
Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Pluriel, Pluriel Gay. Sympathique cette petite
introduction. Oui, en effet, très courte.
Voilà, comme mise en bouche, c'est sympa. Alors, ensuite, nous allons maintenant aborder donc, du sérieux. Je disais qu'on était en 2015 après Jésus-Christ, mais parfois, on pouvait se poser la question si on était vraiment après Jésus-Christ, puisqu'on a toujours nos amis de la Manif pour tous qui sont là, en fait. On a l'impression qu'on en entend moins parler depuis quelques temps, mais en fait, ils sont toujours là. Et, c'est-à-dire, ils ont organisé...
Ils rôdent, ils rampent dans l'ombre.
Voilà, comme la bête immonde. Et en fait, si tu veux, tac, 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 ils ont organisé en France une série de réunions avec les têtes de liste des élections régionales. Parce que tu sais que le mois prochain, nous allons voter pour élire nos élus, nos futurs élus à la nouvelle grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ça sera pareil dans toute la France, dans les 13 nouvelles régions françaises. Alors, la Manif pour tous a invité toutes les têtes de liste de ces élections. Et ça s'est passé dans le Rhône, donc pour Rhône-Alpes, à Lyon, à l'espace Tête d'Or, lundi soir dernier, donc le lundi 2 novembre. Vous avez convié donc tout le monde à venir, tous les candidats n'ont répondu que, et je sais que tu vas être vraiment très surprise, n'ont répondu que les candidats donc des Républicains, Laurent Wauquiez, Christophe Boudot du Front National et Gerbert Rambeau de Debout la France, tu sais, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Donc, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, il fallait poser... donc, il y avait des invités. C'était payant, l'entrée. Hein. Il y avait une participation, en tout cas, pour pénétrer dans
Ces gens sont pauvres, c'est bien connu.
Pour ce meeting politique. Et les gens devaient, donc, pouvaient poser des questions aux candidats sur les thèmes qui les intéressent, leurs thèmes de prédilection, la famille, l'éducation. Donc, plusieurs...
La famille avec un grand F, monsieur.
Voilà. Donc, on connaît la conception de la famille, de la Manif pour tous. On sait que, bon, en gros, je n'y étais pas, mais je peux dire à peu près, sans boule de cristal, ce qui s'y est dit. Abrogation de la loi Taubira.
Mariage pour
tous. Non. La PMA. Ah, la PMA. Va des rétro-satanas. La GPA, pareil.
De toute façon, la PMA, ils n'ont pas grand-chose à craindre.
Voilà. Oui, normalement, oui, mais tu sais que récemment, il y a eu beaucoup de... Dans les chaumières, ça s'est beaucoup agité dans les chaumières de la Manif pour tous, parce que au coin du feu, tu sais, parce que Madame Taubira a évoqué à nouveau la PMA. Bon, on en pense ce qu'on veut, en tout cas, c'est un peu revenu sur le tapis, je pense comme toi, qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre de ce côté-là, et encore moins de la GPA. Mais bon, en tout cas, voilà, il faut avoir peur de tous ces fantômes-là agités, PMA, GPA, là. Et puis aussi, bien sûr, de l'abrogation de la loi Taubira, sur laquelle ils ont certainement été questionnés. Or, les associations LGBT et autres ne sont pas restées inactives puisqu'elles ont dit, puisque c'est comme ça, nous on va aller battre le pavé à l'espace Tête d'Or également.
Très bien.
Donc c'est lundi soir. Donc c'était un peu une manifestation un peu au pied levé en fait, hein, qui a quand même réuni une centaine de personnes alors que ça a été plus ou moins improvisé, je dirais, au dernier moment. Et il se trouve que normalement, nous avons un représentant, voilà, d'une des associations, une des principales associations LGBT de Lyon, un représentant de la LGP de Lyon, qui est donc Olivier Borel. Est-ce que Olivier Borel m'entend ?
Oui, je t'entends.
Bon. Alors, est-ce que tu as suivi mon petit discours d'introduction ?
Et
est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit ou à retrancher ou...
Non, tu as bien résumé les choses. Alors effectivement, nous, on a fait une petite manifestation. Nous, l'idée, c'était de faire ça de manière festive et de célébrer le mariage idéologique entre Laurent Wauquiez et Christophe Boudot, puisque finalement, sur ces questions-là, comme sur d'autres d'ailleurs, hein, les différences entre le Front National et Laurent Wauquiez, faut aller les chercher très très loin pour réussir à en trouver. Donc nous, on a décidé de célébrer, voilà, avec des klaxons, une petite banderole, le mariage de Christophe Boudot, le mariage homophobe de Christophe Boudot et de Laurent Wauquiez.
Oui, effectivement, vous avez déployé une grande banderole pour commémorer donc cette union. Comment l'appeler, cette union, oui, homophobe?
On va appeler ça mariage homophobe.
Oui, je trouvais que c'était bien trouvé, mariage homophobe.
On peut pas dire union contre nature, puisque finalement...
Ah ben non, pour eux, c'est très, très naturel, finalement, parce qu'ils ont vraiment les mêmes idées. Donc,
ouais.
Pour le coup, qui se rassemble, qui se ressemble, ça semble.
Ouais. Mais néanmoins, il y a eu des divergences, mais peut-être ne sont-elles que de façade, je ne sais pas, entre Boudot et Wauquiez, mais bon, ça fait partie du jeu politique aussi.
Oh, c'est du point de détail.
Et donc la manifestation a quand même réuni une centaine de personnes. Vous étiez devant l'espace Gerson. Gerson, qu'est-ce que je raconte, moi ?
Tête d'or.
Gerson, ça aurait été plus sympa, café théâtre. Non, là, c'était le meeting de la manif pour tous. Et donc, du coup, en fait, vous avez été content quand même d'avoir pu réunir tout ce monde pour quelque chose,
oui,
finalement d'informel.
On a voulu improviser ça, histoire, oui, de bah, entre guillemets, on a voulu garder un petit peu le secret pour pas. Pour être sûr que Laurent Wauquiez ne se désiste pas au dernier moment, hein, parce qu'on sait que c'est pas quelqu'un de très courageux.
Donc, d'ailleurs, il est arrivé en retard, il paraît.
Oui, il est arrivé en retard.
Mmh. Il a été hué par la salle.
Voilà.
À cause de son retard.
Le pauvre garçon, je vais aller me coucher pour pleurer pour lui. Donc oui, non, on avait essayé de garder ça un petit peu secret avant l'événement, donc c'est pour ça qu'on n'était pas forcément très nombreux, mais on avait ça sous forme du happening. On était une petite centaine, d'ailleurs bien plus que ce qu'on attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit 20-25. Finalement, on était beaucoup plus nombreux que prévu, et c'était très bon enfant. On a bloqué un petit peu la rue, les CRS ensuite nous ont mis un petit peu sur le côté, on est resté encore une vingtaine de minutes là-bas, et puis... le temps de répondre à deux, trois journalistes, et puis ensuite nous sommes partis.
D'accord. Alors, par contre, une question que je me posais, enfin, non, c'est pas, oui, une question d'ailleurs, c'est une information que tu vas pouvoir nous donner. Il y avait donc des associations LGBT, mais pas que, je crois que SOS Racisme aussi était présent.
Oui, tout à fait. C'était quelque chose qu'on a fait en partenariat, SOS Racisme et la Lesbian and Gay Pride, auquel on a associé ensuite toutes les orgas qui ont bien voulu se joindre à nous. On devait être une quinzaine d'organisations, j'ai plus le nombre précis en tête, parce qu'effectivement, il n'y a pas que sur les questions LGBT où on trouve les mêmes discours chez Laurent Wauquiez et au Front National, sur les questions d'immigration, sur les réfugiés, sur le cancer de la cistanat, pour citer Laurent Wauquiez, sur les syndicats. Dernièrement, Laurent Wauquiez avait brocardé les syndicats, et quelques jours plus tard, deux sénateurs Front National ont essayé de faire passer un amendement pour supprimer les syndicats. Donc on voit vraiment qu'idéologiquement parlant, sur de nombreux sujets, les points de convergence entre Wauquiez et le Front National sont très très nombreux.
Alors, est-ce que votre action, vous pensez qu'elle peut avoir quand même un impact quelconque, notamment sur l'électorat LGBT, puisque je ne sais pas si c'est ce que vous visez particulièrement quand vous organisez de telles manifestations, puisqu'on sait que malheureusement, il y a aussi de l'électorat LGBT qui sont conquis par les idées de droite et notamment d'extrême droite. Alors, est-ce que pour vous, c'est une façon de bien marquer la délimitation entre le militantisme LGBT et l'extrême droite, justement?
Oui, c'est un petit peu. En tout cas, c'est une façon de montrer que, en tout cas, nous, dans le monde associatif, on est attentif aux discours qui sont tenus par les uns et les autres sur les sujets qui nous sont proches, qui nous concernent. Et puis c'est aussi d'essayer de faire comprendre à nos amis centristes qui, pour l'instant, partent avec Laurent Wauquiez au premier,
oui,
tour, qu'ils se rendent un petit peu compte que Laurent Wauquiez, c'est pas tout à fait le centre droit, que c'est quand même beaucoup plus proche de l'extrême droite que du centre droit, et qu'à un moment donné, c'est peut-être à eux aussi de se réveiller, parce que je ne suis pas sûr que les valeurs humanistes qui sont mises en avant par les centristes soient très défendues par Laurent Wauquiez.
Oui, Olivier, moi, j'avais une question. Donc, on parle depuis tout à l'heure donc, de Laurent Wauquiez. On parle aussi un peu moins des Républicains. Et tout à l'heure, vous avez bien fait la distinction. Vous avez bien dit Laurent Wauquiez et non pas les Républicains. Vu qu'il fait partie des Républicains, est-ce qu'on doit quand même continuer à se méfier également du parti dans son ensemble? Je ne sais pas en fait ce que les autres Républicains pensent de Wauquiez. Est-ce qu'ils sont d'accord avec lui, mais qu'ils l'ont envoyé lui pour un peu que ce soit lui qui se fasse taper dessus, mais qu'au final ils ont exactement les mêmes idées que la Manif pour tous? C'est quoi en fait le but des Républicains là-dedans?
sur cette question-là, à l'UMP, il y a un peu de tout. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, en tout cas sur la question du mariage, notamment de l'abrogation. Mmh. Des gens qui, pourtant, se sont battus contre le mariage pour tous et qui reconnaissent aujourd'hui que l'abroger, c'est très compliqué juridiquement parlant,
oui,
parce que ça pose un problème constitutionnel. Ouvrir des droits à des gens, c'est facile. Retrancher des droits à des gens, constitutionnellement, ça devient très compliqué. Donc il y a un certain nombre de républicains, des membres du parti Les Républicains, qui ne sont pas d'accord avec la ligne de Laurent Wauquiez sur l'abrogation. Ils sont nombreux, que ce soit Alain Juppé, que ce soit un certain nombre d'autres personnalités de la droite, on va dire, chiracienne, un petit peu cette droite sociale qui était la droite chiracienne, qui reste un peu fidèle à ces valeurs-là. Et puis effectivement, il y a la droite réactionnaire de Wauquiez. Et quand on regarde les listes, la composition de ces listes sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, on va retrouver quelqu'un comme Philippe Meunier. Philippe Meunier qui était l'un des principaux orateurs de l'UMP au moment du mariage pour tous, un des plus virulents, qui était absolument odieux à l'Assemblée nationale. On retrouve Christian Blanc, on retrouve Brice Hortefeux, qui n'est pas complètement inconnu non plus. Mmh. Donc c'est effectivement dans la liste de Laurent Wauquiez sur Rhône-Alpes-Auvergne, on retrouve ces gens-là qui sont vraiment à la droite de la droite, oui, des Républicains. Donc effectivement, je ne mets pas tous les Républicains dans le même panier, mais effectivement, Laurent Wauquiez et les colistiers qu'il a choisis, parce que c'est lui qui les a choisis, c'est cette droite-là. Ce n'est pas la droite dont on peut attendre un minimum d'humanisme et sur lesquels lesquels on aurait pu travailler éventuellement. Hein. Moi, je n'ai pas de problèmes particuliers à pouvoir travailler avec des gens qui ne partagent pas forcément mes idées politiques, mais en tout cas, voilà, effectivement, avec Laurent Wauquiez, on sait que ça va pas être possible. Quoi. D'ailleurs, il l'a clairement dit, hein, ça faisait partie des questions de la manif pour tous, hein, on n'avait pas évoqué ce sujet-là, mais c'était la question de subvention aux associations LGBT. Bon, on a très clairement dit, tous les candidats qui étaient présents à ce meeting, qu'il n'y avait pas de raison de subventionner les associations comme les nôtres, c'était un gaspillage d'argent. On va peut-être quand même rappeler à ces messieurs que la région a la responsabilité des lycées, et que dans les lycées, il y a des jeunes, et que la première cause de suicide chez les jeunes LGBT, c'est justement l'homophobie et l'homosexualité mal assumée. Donc je pense que les associations LGBT qui font un travail auprès des jeunes, ont besoin de soutien de la région Rhône-Alpes.
On va devoir conclure, malheureusement, parce que l'heure tourne. Mais c'était très intéressant d'avoir la LGP à l'occasion donc de cette manifestation de lundi soir. J'aurais deux questions pour finir. Alors la première, ça concerne directement notre sujet, encore une fois. Donc Laurent Wauquiez, est-ce qu'il ne confond pas quand même des échéances nationales et les échéances régionales? Je veux dire, pourquoi inviter... Bon, tu as parlé effectivement des subventions régionales, etc. pour les associations LGBT. On sait qu'elles sont menacées par autant par Wauquiez que par Boudot. Mais est-ce que c'est pas confondre un petit peu les thématiques nationales, le mariage pour tous, la PMA, la GPA, etc. avec des choses qui n'ont rien à voir avec la région? C'est un peu...
Très clairement, pour les manifs pour tous, oui, c'est ça qui est au cœur de leur combat, parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'abrogation en 2017, donc ils cherchent effectivement à ce que les leaders de l'UMP, on va rappeler que Laurent Wauquiez est l'un des plus hauts responsables, il est numéro 2 ou numéro 3, on ne sait jamais, entre Nathalie Kosciusko-Morizet et lui, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, mais voilà, c'est partie du trio de tête de l'UMP, et puis c'était clairement assumé par la manif pour tous aussi, de dire que aux prochaines élections sénatoriales, parmi les grands électeurs, il y aura les conseillers régionaux. Donc de vouloir mettre au conseil régional comme potentiels futurs grands électeurs des sénatoriales des gens qui sont très à droite et pour l'abrogation, c'est aussi une façon de la manif pour tous de viser après les élections régionales, sur les élections nationales, les sénatoriales et les présidentielles, une abrogation en 2017 ou un peu plus tard.
D'accord. Bon, donc on a très bien compris la position de l'LGP. Et par contre, il y a une question. Alors, toi, j'agite ma souris parce que mon ordinateur il s'éteint. une question qui n'a rien à voir avec le sujet dont nous venons de parler. Tu as certainement entendu Olivier. Donc la fin d'un tabou. Enfin, c'est ainsi que s'est exprimé Marisol Touraine, le ministre de la Santé, concernant la possibilité pour les homosexuels de donner leur sang, mais sous certaines conditions. Alors, je ne sais pas si déjà tu t'es fait une opinion,
j'ai une opinion là-dessus qui est que, bon, c'est On peut pas dire que ce que propose Marisol Touraine soit la panacée et soit ce qu'on attendait. En revanche, moi, ce que je retiens de cette initiative de Marisol Touraine, c'est qu'on va dans le bon sens. C'est-à-dire que on commence à introduire, ce que nous, on se bat depuis des années là-dessus, la question du comportement sexuel plus que l'appartenance à une communauté ou à une catégorie de population. Parce que pour l'instant, le raisonnement de l'EFS, c'était de raisonner en termes de population à risque, en partant de statistiques de contamination des uns et des autres. Là, on introduit la question de son comportement sexuel, d'avoir des pratiques à risque ou pas. Après, les délais, un an d'abstinence pour pouvoir donner son sang, c'est un petit peu très largement exagéré. Par contre, pour le plasma sanguin, on est sur les mêmes questions, les mêmes délais que pour les couples hétérosexuels, donc ça va plutôt dans le bon sens. Et ce que je retiens surtout de ce qui est annoncé par Marisol Touraine, c'est de dire que c'est une première étape et que là, pendant l'année qui va suivre, ils vont faire des études justement sur les dons nouveaux qui vont arriver pour voir si effectivement ce délai, ben non, on peut pas le raccourcir et se rapprocher de celui des hétérosexuels. Et je trouve que c'est plutôt une mesure de bon sens d'aller dans ce sens-là et d'aller prudemment, même si moi je suis convaincu que ça ne va pas augmenter le risque transfusionnel, parce que si on regarde très clairement aujourd'hui le questionnaire, si tu regardes, par exemple, si on prend deux exemples, je te prends un homosexuel qui s'assume suffisamment pour répondre oui à la question de savoir s'il couche avec des hommes, on peut raisonnablement penser que quand on va lui poser la question s'il a couché avec quelqu'un sans préservatif, il va aussi répondre de manière honnête. Par contre, si tu prends le bon père de famille, qui va dans les lieux de consommation sexuelle de temps en temps, qui n'assume pas son penchant pour les garçons qu'il peut avoir de temps en temps, et qui, lui, va des fois baiser justement sans capote parce qu'il n'assume pas cette partie-là de sa vie, si on lui demande s'il a couché avec des hommes, il y a de fortes chances qu'il réponde non. Alors que si on lui demande simplement s'il a couché avec quelqu'un sans préservatif, eh ben là, peut-être qu'on aura davantage de franchise et que du coup, on assurera mieux la sécurité transfusionnelle. Et donc, vraiment, la logique ici est de s'attacher davantage au comportement des gens qu'à leur assignation à une population qui serait éventuellement plus contaminée. Voilà.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai été très très clair dans ce que j'ai dit.
Très bien.
C'est un sujet qui est compliqué.
Voilà, de toute façon, c'est un thème qu'on a déjà abordé ici aussi, voilà. Et qu'on suivra évidemment, oui, avec attention et intérêt. Bon, bah, merci Olivier en tout cas,
merci
d'avoir accepté de participer à l'émission ce soir.
Pas de problème.
Et puis à très bientôt alors.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Donc on va s'écouter un deuxième morceau de Kingside, tu sais, ma petite comédie musicale que j'ai introduite en début d'émission. Et là, ça s'appelle Une marche après l'autre. Une marche après l'autre.
Ramasser mes affaires plutôt que brasser l'air, je préfère ranger mon bric-à-brac et mes livres de fac dans un sac. Passer à l'attaque, même si j'ai trop le trac, je préfère. Quand la vie s'accélère, je range mes affaires dans un sac. Pas trop se poser de questions, écouter mes émotions. Et demain je verrai bien si c'était le bon chemin. Une marche après l'autre pour emménager dans vos vies. Une marche après l'autre, je pose mes valises ici. Je monte une marche après l'autre, j'ai choisi mon côté du lit. Vous embrasse l'un après l'autre, tant pis si c'est de la folie. La vitesse supérieure, ça ne me fait pas peur, c'est dans le sac. Passer à l'attaque, du tac au tac, je préfère. Avoir ma vie en vrac avec mes clics et mes claques dans un sac. Mais ne plus avoir peur, accepter le bonheur, je préfère. Brûler pour un coup de foudre, se réduire le cœur en poudre. Tout donner pour cet espoir, ça n'a rien de dérisoire. D'une marche après l'autre, pour emménager dans vos. Une marche après l'autre, je choisis mon côté du lit. Vous embrasse l'un après l'autre, tant pis si c'est de la folie. choisis mon côté du livre. Vous embrasse l'un après l'autre. Tant pis si c'est de la folie. Une marche après l'autre pour emménager dans vos vies. Une marche après l'autre. Je pose mes valises ici. Je monte une marche après l'autre. Je choisis mon côté du livre. Vous embrasse l'un après l'autre. Tant pis si c'est de la folie. Dans vos vies, une marche après l'autre. Je pose mes valises ici. Je monte une marche après l'autre. Je choisis mon côté du lit. Vous embrasse l'un après l'autre. Tant pis si c'est de la folie.
Bien, nous voici de retour, ma petite Lolo. Alors, tu sais, tout à l'heure, on avait Olivier Borel, juste à l'instant.
Oui. Voilà.
Et puis, j'ai dit, je lui posais la question, il y avait, paraît-il, le CSOS racisme. Mais je savais qu'il y avait le CSOS racisme avec la LGBT.
Mais oui, tu sais tout.
Voilà. Et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs ce soir aussi un représentant du SOS racisme. Alors, j'ai trouvé intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui représente une association non, on va dire, LGBT, mais qui a répondu donc à la manifestation organisé lundi soir en référence à ce meeting d'un manif pour tous. Alors, nous devrions avoir Thibault Roche, est-ce le cas ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, je ne me suis pas trompé, vous êtes de SOS Racisme. Agir pour l'égalité, faut-il rajouter ?
Agir pour l'égalité, voilà. SOS Racisme Rhône, c'est ça.
Voilà, parce que Boris m'a dit, rajoute bien agir pour l'égalité. Mais alors, pourquoi c'est quoi SOS Racisme, agir pour l'égalité ? Quelle est la différence avec SOS Racisme tout court ?
Tout simplement que on a une nouvelle ligne, on va dire, de conduite localement dans le Rhône, qui est de lutter contre toutes les discriminations et de travailler à la convergence de toutes les luttes contre les discriminations. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la LGP déjà depuis quelque temps, et c'est pour ça qu'on a aussi participé dès l'organisation à l'événement de cette semaine pour célébrer le mariage de Laurent Wauquiez et Christophe Goudou.
Alors donc effectivement Olivier Borel évoquait la banderole, le mariage homophobe de Laurent Wauquiez et de Christophe Goudou. Vous, ce meeting, donc évidemment vous le dénoncez aussi puisque vous participiez à la manifestation, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous ce meeting et puis la présence de Wauquiez, Boudot et du parti Debout la France aussi dont on parle moins, mais qui était aussi présent, dont le représentant, le candidat était présent également. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport à votre militantisme, à vos actions, je dirais.
C'est vrai, ce que ça représente, c'est que déjà, on avait vu lors des manifestations, des manifs pour tous, qu'on avait donc le Front National, l'UMP à l'époque, puis d'autres partis comme Debout la République à l'époque, Debout la France aujourd'hui, qui partageaient la même banderole et aujourd'hui partagent la même tribune. Il y a une vraie cohérence chez Laurent Wauquiez de participer à meeting qui a eu lieu à Lyon, et parce qu'il avait pris des positions quand même plutôt claires en matière de mariage cette fois pour tous, contre le mariage pour tous, et qui prend de plus en plus d'autres directions, comme par exemple la sortie de Schengen. C'est lui qui a quand même prononcé l'expression du cancer de la cistana, qui est un peu finalement le champ lexical du Front National. Donc c'est inquiétant de voir qu'on a une droite qui va du coup chasser sur les terres du Front National. Et je pense que c'est à nous aussi, d'association qui lutte contre les discriminations, d'alerter là-dessus.
Oui, on a compris que vous, donc c'est la lutte transversale, on va dire, hein, que toutes les discriminations méritent d'être prises en compte, font l'objet de luttes transversales. Mais alors, la question que je voulais vous poser aussi, est-ce que vous pensez que par rapport, que face à Laurent Wauquiez, Boudot, enfin, les Républicains, le FN et Debout la France, il y a une réponse politique de la part des partis de gauche, on va dire, de l'autre côté, on va dire de gauche dans l'ensemble, hein, de tous les partis, PS, PC, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des réponses politiques à l'idéologie défendue, puisqu'on peut parler d'idéologie, défendue par cette droite, Olivier Borrell disait droite réactionnaire, ce en quoi nous adhérons complètement ici à la radio, évidemment, on est tout à fait d'accord.
Mais... Oui, moi aussi.
Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une réponse politique qui est possible ou qui se fait, qui se prépare dans le cadre de ces élections qui vont arriver, par exemple, ces élections régionales?
Alors déjà, je tiens à dire qu'on a eu que l'événement qu'on a organisé a eu plutôt des bons échos. On a été quand même soutenu par les principales listes de gauche, que ce soit la liste PG et Vert. La liste socialiste qui nous ont apporté un soutien, en tout cas. Et après, est-ce qu'il y a une réponse politique? Je pense qu'on peut le dire. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne s'affirme pas assez fort, mais en tout cas, je sais que la région s'est engagée contre les discriminations, que ce soit pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Olivier, j'écoutais tout à l'heure, en parlait aussi au niveau des jeunes, des lycéens, avec des jeunes qui peuvent éventuellement se découvrir homosexuels et qui peuvent trouver un soutien grâce aussi aux subventions de la région, qui peuvent aller aux associations, aussi aux choix politiques qui peuvent être faits lors de campagne. Et ça, effectivement, c'est déjà une première réponse politique. Qui, à mon avis, apporte un soutien contre les discriminations. Donc là, effectivement, on parle de la lutte LGBT, mais on peut retrouver ça aussi des politiques, en tout cas, qui favorisent le vivre ensemble, contrairement à ce qu'organise et à ce que prévoit la droite et l'extrême droite lors de ces élections.
Eh bien, encore affaire à suivre. La manif pour tous, malheureusement, on est toujours un petit peu... Moi, ça me déface toujours un petit peu quand je vois à quel point ils sont encore motivés et encore bien...
Non, mais ils n'arrêtent pas de le dire, ils lâchent rien.
Ils lâchent rien.
Voilà, ouais. C'est ça. C'est ça.
En fait, on a l'impression qu'il y a toujours un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, où on ne les entend pas, ils ne font pas parler d'eux, et puis d'un coup, comme ça, ils bondissent.
Oui.
Un peu comme une bête qui rôde.
Comme le diable qui sort
reste
de sa boîte.
Exactement.
Ouais. Et c'est vrai que...
Ça va leur plaire, en plus.
Voilà. Entre tout... Entre toutes les choses, moi, ce qui me paraît le plus incroyable, c'est quand même un leurre, l'abrogation de la loi Taubira. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibault, mais on ne peut plus abroger cette loi. C'est plus possible.
Comment je vois pas comment ils pourraient le faire. Mmh. Je vois pas les outils républicains qui permettraient de le faire aujourd'hui. Et je comprends même pas l'idée de le faire. Pour moi, c'est une posture qui est purement idéologique, voire populiste, même si bon, le public, on vous le disait tout à l'heure, n'est pas forcément le plus populaire. Mais en tout cas, je pense que, voilà, effectivement, c'est pour moi, c'est vraiment le conservatisme à l'état pur, quoi. C'est vraiment le retour en arrière. On a envie de revenir sur les progrès sociaux ou sociétaux. Qui ont été faits, qui sont plus validés par le pays, quoi. Donc moi, j'avoue que je comprends pas et ça me désespère de voir qu'on a des personnes qui peuvent avoir encore ce discours aujourd'hui à l'heure où justement on devrait on a besoin de se retrouver, je pense, tous ensemble, et au lieu de créer le tous ensemble, on se recroqueville sur chacun pour soi. Oui. Et je trouve que c'est dommage.
Oui. Et puis, je rappellerai, à moins que tu voulais rajouter quelque chose,
oui,
Laurence, que le fond de la manif pour tous, qu'ils le veuillent ou non, c'est l'homophobie.
Oui.
Ils sont homophobes.
Façon,
parce qu'eux s'en défendent tout le temps. Hein. Ah, mais non, on n'est pas homophobes. On n'a rien contre les homosexuels, machin.
Il faut juste que ça reste privé. En fait, ils ne veulent pas voir l'homosexualité.
Mais ils sont homophobes. Pour nous, on n'est pas des gens dans la norme. Pour eux.
Moi, je
on n'a pas de droit d'avoir des droits. On reviendrait aux lois discriminatoires. Ils seraient d'accord, ces gens-là. Moi, j'en suis sûr.
Mais c'est l'état d'avant, le mariage pour tous, était discriminatoire, parce que du moment où on ne reconnaît pas l'égalité entre tous les amours, on fait une discrimination, on crée une discrimination. Tous les amours, aujourd'hui, pas tout à fait encore, et je pense qu'il y a encore des progrès à faire, et c'est pour ça qu'on se bat encore aujourd'hui, mais au moins au niveau du mariage, les amours sont égaux. Et ça, c'est quand même un progrès. Et vouloir revenir là-dessus, pour moi, c'est être homophobe, c'est considérer finalement qu'un couple homosexuel et qu'un couple hétérosexuel, c'est pas la même chose. alors que au regard de la loi, la justice est censée être aveugle. Et pour moi, c'est naturel pour le coup de reconnaître que tous les couples sont égaux devant la loi.
Alors, je rappellerai aussi, à titre d'exemple, qu'en Espagne, la droite qui est revenue au pouvoir à l'époque avait, au moment donc de sa, où elle a repris les rênes du pouvoir en Espagne, avait tenté aussi, c'était partie de son programme, abroger la loi du mariage pour tous, donc l'équivalent en Espagne. Mais ils ont été retoqués par l'équivalent du Conseil constitutionnel espagnol. Ils n'ont pas pu le faire. Voilà. Donc, pour dire aussi, effectivement, que n'ayez pas peur de la manif pour tous.
Non. Nous aussi, on a un conseil de sages qui veille sur nous.
Exactement. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pour le coup, les républicains devraient regarder ce que c'est la République et les outils républicains, qui le sont vraiment, eux, pour le coup, et qui ne permettent pas de revenir en arrière.
Très bien. Eh bien. En tout cas, Thibaut, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation. Racisme.
Merci. Et puis, on retrouvera de toute façon SOS Racisme sur tous les lieux donc, de lutte, on va dire, notamment à la Marche des Fiertés, puisque SOS Racisme est toujours présent à la Marche des Fiertés toutes les années, à Lyon
bien
et
sûr,
ailleurs.
Et nous, on vous attend aussi sur nos luttes. Absolument. Avec grand plaisir.
Très bien. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Alors, ma petite Lolo.
Mon petit Gérald.
Ouais. Il va y avoir une suite à cette émission parce que
Tu
as pu remarquer que l'heure n'a pas tout à fait tourné encore, même si le temps passe très vite en ma
compagnie. On a quand même basculé dans la deuxième partie de l'émission. Là.
Et dans la deuxième partie d'émission, comme je l'avais annoncé sur la page Facebook, j'espère qu'ils ont été nombreux, les personnes à consulter. Elles ont été nombreuses, les personnes à consulter la page Facebook parce que c'est le retour de Thomas Dupuis. Alors Thomas Dupuis, tu sais, celui qui a écrit Les années guépiers.
Mais bien sûr.
Voilà, qui est paru aux Ailes sur un tracteur, aux éditions des Ailes sur un tracteur. Et on avait donc, pour des raisons personnelles, il n'avait plus le temps d'enregistrer nos petites chroniques. Mais là, on a terminé les enregistrements des dernières chroniques.
Très bien.
Il nous restait les 4 dernières années des années guépiers, donc 89, 90, 91, 92. Est-ce que j'étais née à cette époque, Laurence?
Bien sûr que non.
Voilà, très bien. Elle a bien compris. Elle est très bien dressée, ma petite Lolo. C'est parfait. Et donc, nous allons donc maintenant écouter Thomas Dupuis pour l'année 1989 des années guépiers.
Okay. Pluriel gay. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir Thomas et merci d'être de retour sur Pluriel Gay pour notre série de chroniques dédiées aux années guépiers.
Mais merci à toi Gérald de me réinviter.
Alors Thomas, avant de reprendre nos chroniques, et il va s'agir de l'année 1989, là nous en étions arrêtés, te poser la question, on en a souvent parlé à l'antenne et je voulais savoir toi ce que tu en penses de la disparition de Tétu.
Alors la disparition de Tétu était à mon sens un peu inévitable dans le sens déjà du marasme général de la presse. Et au niveau de la presse gay, le souci qu'on a si on compare par exemple Tétu à Guépier, c'est que Guépier occupait un terrain qui n'était occupé nulle part de rapprochement avec avec la communauté gay, etc. C'était le seul média qui existait. Aujourd'hui, avec l'émergence d'Internet, avec même des programmes télé, radio un peu partout, etc., il y a moins ce besoin de la communauté d'avoir un média spécifique. Aussi, on est dans une époque où le milieu associatif n'est plus porteur comme il a pu l'être dans les années 80 où tout a explosé au niveau de la cause gay. Et du coup, Tétu, enfin, moi, à mon sens, c'est depuis des années perdu chercher, on va dire, entre du commercial pour vendre, entre de l'associatif quand même pour toucher une certaine partie de la communauté. Sauf que la communauté en tant que telle, il n'y en a pas du tout. Et du coup, pour toucher un nombre suffisant de lecteurs pour qu'un titre soit rentable, c'était de plus en plus compliqué. Donc pour moi, c'était un peu inévitable, malheureusement. Ce que je trouve dommage, là aussi en mettant en perspective par rapport à moi le travail que j'ai fait quelques années après la disparition de Guépier, c'est que justement, je pense qu'un journal comme Guépier, un journal papier, peut montrer l'actualité gay en l'occurrence, ici en train de se faire, l'histoire en train de se dérouler. Et là, ça on ne l'aura plus, parce que ça va être éparpillé un peu partout, sur des médias généralistes, sur le web, mais le web, les journaux en ligne, etc., je doute qu'on les étudie comme on peut le faire sur du papier. Voilà, donc là, dans un aspect mémorialiste, je dirais, ça, ça va beaucoup nous manquer aussi rétrospectivement.
Oh, sinon, sur le net, il nous restera YAG.
Il restera YAG, oui. Mais je ne sais pas si dans quelques années... Après, je ne sais pas, moi, je projette avec ma façon de faire à moi, peut-être. Mais je ne sais pas si dans quelques années, l'information sur le net est tellement riche et diffuse que je ne sais pas si des chercheurs ou même des simples particuliers qui s'intéressent à la question auront véritablement le réflexe d'aller disséquer tout ce qui se disait tout le temps sur le net. Donc pour ça, je trouve ça dommage. Voilà.
Donc nous rappelons, Thomas, qu'aux éditions des Ailes sur un tracteur a été publié donc ton ouvrage consacré aux années Guépier. Donc les années Guépier, c'est 12 ans d'existence.
79 à 92.
12 ans d'existence. Donc c'est un journal qui est resté mythique chez nous, mais on parlait de Tétu juste à l'instant. Tétu lui aura quand même duré 20 ans, ce qui est à signaler quand même. Peut-être que dans 20 ans, tu feras les années têtues.
Oui, personnellement, non, mais d'autres pourront le faire, je pense, au travers... Oui, effectivement.
Après... Mais tu peux, tu es encore jeune, Thomas. Tu seras encore jeune dans 20 ans.
Certes, mais après, le rythme aussi de têtues, qui était en mensuel, était moins directement lié à l'actualité en train de se faire. Voilà. Je trouve que c'est une grosse différence, ça.
Oui. Guépier était plus en prise avec l'actualité,
ouais.
C'est ce que tu veux dire.
Oui.
Donc l'année 1989 que nous allons entamer maintenant, quels sont les événements marquants donc de cette année à travers le prisme de Guépier donc.
Alors pour le journal en lui-même, on va dire que c'est quand même un grand anniversaire parce que c'est les 10 ans. Guépier est né en février ou avril 79 et donc en 89 ils fêtent leurs 10 ans et donc ils vont instaurer une nouvelle formule qui est le salon de l'homosocialité. Qui va perdurer 6 ou 7 ans, je crois, qui perdurera d'ailleurs même après la disparition du journal. Donc c'est une espèce de grand forum qui réunit des associations, des spectacles, etc. Donc en cette première année, il y sera beaucoup là-bas. Ils font ça sur 2 jours au Cirque d'Hiver. Et il y a notamment, voilà, un clin d'œil à l'actualité plus récente, il y a Sylvie Joly qui donne un grand spectacle. On y trouve aussi, alors là, les plus jeunes auditeurs, ça leur dira pas grand-chose, mais participent aussi Yvette Horner ou Alissa Pritch, qui étaient aussi des figures, on dira, un peu du monde gay de l'époque. Même si Guépier a vraiment acquis sa place dans la presse française et dans la communauté, tout n'est pas rose pour autant. Et c'est en 89, par exemple, que, mais ça on le retrouve régulièrement à Paris ou ailleurs, et courant 89, le directeur des bibliothèques de la mairie de Paris, en fait, fait supprimer tous les abonnements au journal, mettant en cause le fameux cahier central à caractère pornographique, parce qu'on y voyait des bites voilà, chaque semaine, et que donc voilà... chaque fois, hein, ça dure que quelques temps, mais il y a régulièrement ce genre de mouvement en France ou à l'étranger. Voilà pour le journal. Après 89, le gros événement, mais j'en parlerai peut-être après, c'est la naissance, je vais faire durer le suspense, d'une des principales associations en France. 89, donc on est toujours dans la question de la crise du sida. On en est à mi-année à 9000 cas de sida recensés en France. Un peu plus de la moitié concerne des homos, majoritairement en Île-de-France. Le gouvernement continue ses actions. Donc on a eu les actions de Michel Barzac dans les années précédentes. Là, on est retourné dans des gouvernements de gauche qui continuent les actions, qui créent l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche contre le Sida. On a, dans toutes ces années-là, la mise en place de structures de l'État pour soit accompagner, soit faire de la recherche, etc. On voit aussi la création d'un groupe d'études à l'Assemblée nationale. Donc le sujet a vraiment dépassé la simple sphère communautaire pour être une question de public national. De façon anecdotique, on voit en 89 la création d'une première campagne de communication qui montre un séropositif. Ça s'était jamais fait. Jusqu'à présent, c'était des messages très métaphysiques ou autres, ou symboliques. Là, non, mais on montre un séropositif. Et j'en venais à mon teasing de tout à l'heure. On voit naître en 89, la première sortie publique sera pour la Gay Pride parisienne, une association qui est ACT UP Paris. Alors, ACT UP Paris, c'est en fait la petite sœur, même si juridiquement il n'y a aucun lien, de ACT UP New York. Il y a eu ACT UP Londres aussi, qui est né en début d'année 89 d'ailleurs. Et donc ACT UP Paris, c'est trois personnes qui le fondent, Didier Lestrade, Luc Coulavin et Pascal Loubet. Alors, ACT UP Paris et ACT UP de façon générale est un détonateur dans la communauté. Jusqu'à présent, les deux grosses associations de lutte contre le sida, qui étaient Arcade Sida et AIDE, étaient plus des associations d'accompagnement. Et surtout, si on prend notamment AIDE, était une association qui se définissait comme une association de lutte contre le sida, mais pas du tout une association homosexuelle. C'est d'ailleurs en 89 que AIDE lance une première enquête à destination spécifique des homosexuels. ACT UP, là, c'est différent. ACT UP se définit comme une association homosexuelle de lutte contre le sida. Donc, il y a vraiment les deux publics qui sont visés. Et surtout, ACT UP est une association, et ça, on avait totalement perdu ça de vue depuis quelques années, une association politique, de revendication politique. Le credo, c'est de dire au gouvernement, la population est en train de crever, donc prenez vos responsabilités, c'est à vous aussi de vous retrousser les manches pour nous aider. Il y a une menace, il y a un cataclysme, vous ne pouvez pas rester impuissant. Donc c'est vraiment une action de lobbying à destination des gouvernants pour supporter la cause gay et la cause de la lutte contre le sida. Donc ACT UP arrive avec des modes de revendication qui sont totalement nouveaux, des interpellations, des die-in. Le die-in, ce sont tout un ensemble de militants qui miment la mort en se couchant sur le sol et pour montrer en gros la réalité de ce qu'est le sida en fait. Ça, on l'avait jamais vu, et lors de la, en France en tout cas, c'est lors de la Gay Pride de 89 que ACT UP apparaît avec ses badges en forme de triangle rose inversé, avec leur slogan disant que le sida est l'holocauste de la communauté gay, en faisant un die-in. Régulièrement, ils interpellent le président de l'AFLS, de l'Agence française de lutte contre le sida. Ils vont même jusqu'à lui balancer de l'eau colorée en rouge sur le... Voilà, c'est un mode très rentre-dedans, très revendicatif, très politique. Et ça, on avait totalement perdu l'habitude. Donc, avec ACT UP, mais né un nouveau, nouvelle forme de militantisme qui rejoint la lutte contre le sida et de l'activisme politique qu'on avait perdu de vue depuis les années 70, en gros, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le gros fait marquant de l'année 89. Sur l'année 89, alors toujours pareil, hein, tous les gouvernements et toutes les autorités se cherchent par rapport au sida. On pourra noter que la municipalité de New York fait fermer deux ciné-porno gays, le Bijou, le Variety, justement en prenant prétexte du maintien de questions d'hygiène, etc., en accusant les lieux de rencontres homosexuelles de propager l'épidémie. Donc on est toujours à un flottement, alors je pense qu'il y en a qui le pensaient sincèrement, mais on est toujours à un jeu subtil entre le sanitaire, les ligues de vertu qui en profitent, etc. Les associations catholiques et familiales, par exemple, font du lobbying auprès de la mairie de Montpellier, dirigée par Georges Fraîche à l'époque, et qui finit par céder la municipalité et fait retirer une nuit tout le distributeur de préservatifs de Montpellier. Voilà, sous prétexte que c'est une incitation à la débauche, et voilà, donc le jeu est très compliqué tout le temps. Voilà. De façon un peu annexe, on notera aux États-Unis le Marc Christian, qui était l'ancien amant de Rock Hudson, qui 4 ans après la mort de son amant finit par avoir gain de cause auprès de la justice et à faire condamner les héritiers officiels de Rock Hudson à lui verser 21 millions de dollars en disant, pour préjudice moral, etc., en disant que Rock Hudson ne l'a jamais prévenu de sa séropositivité, qui lui a fait prendre des risques, etc. Et parallèlement à ça, la grande amie de Rock Hudson, qui est Elizabeth Taylor, elle, qui est toujours très engagée dans la lutte contre le sida, fait un nouveau testament qu'elle rend public en disant qu'elle va léguer la majorité de sa fortune aux associations de lutte contre le sida. Et quand elle mourra, je ne sais plus quelle année, mais effectivement, une grosse, grosse partie de de ses biens vont aller à la recherche contre le sida. Voilà, et puis je terminerai pour la France, toujours pareil, la frontière des questions autour du sida, en rappelant que c'est ces années-là où Barbara va beaucoup témoigner, c'est-à-dire que Barbara, la chanteuse, s'est un peu retirée de la scène, et en fait elle a fait tout un travail d'accompagnement de malades, notamment dans les hôpitaux et les prisons, dont elle parlera dans son tout dernier album qui sortira... en 95, je crois, ou 94. Et donc, pour les premières fois, en 89, elle témoigne de ça. Et enfin, pays précurseur, le Danemark. C'est en 89 que le Danemark introduit le mariage pour les couples de même sexe. Donc, il va être suivi, après le Danemark, par d'autres pays nordiques. C'est des pays très en avance sur les droits des homos. Donc, ils vont introduire le mariage, la possibilité de faire des déclarations fiscales communes. En gros, tous les couples homos vont avoir exactement les mêmes droits que les couples hétéros, à une différence près, pour l'instant, c'est qu'ils n'auront pas le droit d'adopter. Voilà pour le tour de l'année 89.
Je remercie Tonal de finir sur cette note nuptiale et joyeuse, l'année 1989. Et nous nous retrouverons donc la prochaine fois pour l'année 1990.
Mais merci à toi de m'avoir réinvité et puis à bientôt.
À bientôt. Et voilà, c'était Thomas Dupuis, donc les années guépies, l'année 1989. L'année 1989.
On n'était pas nés, donc.
Voilà, et il n'y avait plus de speakerine à la télévision à cette époque-là.
C'était fini.
Je voulais le préciser. Oui, c'était terminé.
Sûr ?
Ah oui, Denise Fabre,
tout ça. Ça n'a pas duré jusqu'à 90 fini. Au moins, 91 ?
Ah non. Après, les nuls ont recréé la speakerine de leur façon.
Un autre genre de speakerine.
Voilà. Donc, notre mission tire à sa fin, ma petite Lolo. Nous allons devoir nous pleurer. Nous séparer en pleurant.
Pleurons-nous.
Oui, on pleure toujours quand on se sépare.
Pleurons-nous les uns les autres.
Jusqu'à la semaine prochaine.
Oui.
Et en attendant, nous allons écouter le dernier morceau de King Size.
Alors demain, la semaine prochaine, excuse-moi. On précise, c'est férié.
Oui.
Mais nous on sera là quand même.
Voilà. Nous, on va bosser. On sera au turbin. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Merci à Boris et Bernard d'avoir assuré la technique. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices.
T'as vu, Boris, comme il porte très bien le casque. Là, on voit le vrai pro, là.
Ah oui.
Là, ça y est. Oui, là, il y est, là.
Il a essayé de s'exprimer.
Oui, il a essayé, mais non.
Bon, là, ça marche.
J'ai trouvé le bouton.
Ah.
Je suis avec vous.
Donc, on va écouter le dernier morceau de King Size, donc tout naturellement, qui se termine, si tu te rappelles bien, du speech de départ, du pitch.
Du pitch de départ,
ils ont trouvé leur grand lit. Enfin, ils veulent un grand lit, ils cherchent un grand lit. La chanson s'appelle « Je veux un grand lit », tu sais, pour faire leur trio.
Oui, bien sûr.
On dormira trois dans le lit.
Oui, bah oui.
Et autrement, on se retrouve la semaine prochaine.
C'est pas confortable.
Bisous à tout le monde. Bisous, ma Lolo.
Bonne soirée.
Essaye d'être
bisous
sage jusqu'à la semaine prochaine.
Je vais essayer.
Pas de sottise.
Je te promets rien.
Tu veux un grand lit à la mesure de la démesure de ta folie, un grand lit sous toutes les coutures serait ton paradis. Pour chasser la mélancolie, ce qu'il nous faut c'est un grand lit. Quand les amants se multiplient, enfin t'es libre en liberté dans un grand lit. Mon accoutumance à ce grand lit fera figure, je pense, d'un homme à lit de délirium très mince ou de délit. Mais j'aurai mon grand lit pour chasser la mélancolie. Ce qu'il nous faut, c'est un grand lit. Quand les amants se multiplient, enfin délire en liberté dans un grand lit. Je veux un trois places, je le confesse, un lit première classe. Pour nos prouesses, un lit de princesse. Passer des nuits avec vous dans l'ivresse. Pour chasser la mélancolie, ce qu'il nous faut c'est un grand lit. Quand les amants se multiplient, enfin délire en liberté dans un grand lit. Pour chasser la mélancolie, ce qu'il nous faut, c'est un grand lit. Quand les amants se multiplient, enfin délire en liberté dans un grand lit.
notre lit. Ce qu'il nous faut, c'est un grand lit. Quand les amants se multiplient, pour fin qu'elle libre en liberté, dans un grand lit.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.